Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial, donc une série que j'ai appelée Flashback, qui va concerner les émissions de Death Podcast, ici une émission de Heavencast, donc qui ont été enregistrées il y a quelques temps, donc avec un petit décalage, on va dire, temporel par rapport à l'actualité de leur enregistrement, mais où on s'est dit que ce serait un peu bête d'en priver les fans de Death Podcast en termes de contenu, et que souvent le contenu on vaut encore la chandelle, hein, d'actualité ou pas. Donc là, en l'occurrence, une émission enregistrée au SRG, festival donc, de pop culture en Savoie, en compagnie donc, de Florian. Florian, donc anciennement de Gourgan Geek, Gourgan Cast, aujourd'hui donc, photographe que vous pourrez retrouver sur Noex Photographie, et donc toujours dans l'actualité de la photographie d'une certaine manière, et notamment du cosplay, dont on va beaucoup parler sur cette émission, et également donc des éditions de Jean-Marc Desmolis qui nous a accordé une interview, ainsi que le responsable du SRG. Donc voilà, c'était une interview qui a eu lieu de mémoire il y a environ 2 ans, si je ne m'abuse, ou 1 an et demi tout au plus. Donc voilà, j'espère que malgré le décalage temporel, qu'elle vous plaira. Bonne écoute. On se retrouve, l'ambiance est là, je pense que ça s'entend à distance au rétro Savoie Game avec nos invités du moment, donc Mathieu Manin,
bonjour.
Je prononce correctement,
oui.
j'ai essayé de m'en assurer, et Jean-Marc Desmolis, que pas mal d'entre vous connaissent plus sous le nom de JM Destroy passé, mais qui a évidemment une actualité, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Excuse-moi de te réveiller. Non, je plaisante. Mais on sait, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi le but de cette émission, c'est de donner un petit peu les réalités, de faire le tour de conventions, de conférences. C'est usant, c'est fatigant. On en parlera peut-être un petit peu. Là, on est là pour parler un petit peu de Geeksline, donc la maison d'édition qui a été fondée. Je donne la parole à Jean-Marc qui en parlera autrement mieux que moi pour resituer la boîte, la maison.
Geeksline a été créé il y a 3 ans et demi maintenant.
Voilà.
Et donc notre but, c'est vraiment de sauvegarder le jeu vidéo et parler de l'histoire du jeu vidéo. Moi, ça fait, j'ai 48 ans aujourd'hui, et j'ai à l'âge de 17 ans commencé à travailler dans la presse spécialisée.
Oui.
Et donc ça fait 30 ans que je suis dans la presse et dans le jeu vidéo. Et je trouvais que pour rendre hommage aux machines qui m'ont fait tellement rêver dans le passé, il était naturel d'écrire les ouvrages les plus prestigieux possibles, les mieux renseignés possibles sur ces machines fantastiques.
Ok. Alors c'est vrai que ça, c'est toujours les débats, et on a cette chance en France là de commencer à avoir des propositions d'éditeurs variées, donc avec des lignes éditoriales différentes. Là en l'occurrence, ce qui saute aux yeux, même si c'est le cas aussi parfois chez la concurrence, c'est d'avoir des bouquins où il y a un effet très stylisé, notamment limite crayonné pour les consoles, parce que vous êtes fait entre autres pas mal connaître justement pour traitement de la Mega Drive entre autres. Là on a l'actualité avec Mathieu qui est avec nous, qui sera à pieds joints dedans la GameCube et la Nintendo 64. Donc voilà, si vous êtes pro Sega ou autre, vous pouvez passer votre micro.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais la Nintendo 64, c'est plus du tout l'actualité, parce que c'est mon premier livre donc avec Geeksline, donc qui est sorti il y a 3 ans déjà maintenant. Ouais. Déjà. Et par contre, oui, la GameCube, c'est vraiment d'actualité, parce que le bouquin est sorti il y a moins de 2 mois. Et donc c'est dans le même esprit que la Nintendo 64, c'est-à-dire que je retrace l'histoire complète de la console avant son annonce, l'état du marché du jeu vidéo,
ouais,
au moment de la génération précédente, l'arrivée de la Dreamcast puis de la PS2 un petit peu, et tout ça jusqu'à l'arrivée de la Wii en fait, qui est vraiment une GameCube 2.0, avec la détection de mouvement, mais au niveau du hardware, voilà, c'est ça. Donc je retrace un petit peu le truc. Le hardware d'ailleurs, une grosse partie dédiée aux accessoires, aux chips graphiques, vraiment tout le matériel.
Ouais, bien sûr.
Et après, évidemment, le gros morceau du bouquin, 80% du bouquin, la Logitech, qui est composée d'à peu près 650 jeux que j'ai dû tous tester vraiment. J'ai vraiment joué à tous les jeux.
Le dévouement.
Et on est bien obligé. Donc j'ai pas acheté tous les jeux, on m'en a prêté énormément. J'ai déjà pas mal de jeux sur GameCube, j'ai une bonne Logitech, mais on m'a prêté beaucoup d'autres. Et c'est vrai que quand il faut tester des jeux à licence qui sont innombrables sur GameCube, alors j'imagine même pas sur PS2 par exemple,
ouais.
C'était très très difficile parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Et la difficulté, c'est justement de ne pas réécrire toujours encore la même chose, de diversifier le truc, c'était pas évident. Mais à côté de ça, il y a tellement de jeux merveilleux sur la GameCube que j'ai trop écrit, justement. Jean-Marc m'en a fait le reproche maintes fois. Et du coup, il y a certains jeux qui tiennent sur deux pages, des tests qu'on fait sur deux pages. Donc, moi, j'avais jamais fait ça avant, dans un bouquin comme ça.
Alors, tu lâchais le terme, justement, de test. C'est intéressant, c'est quelque chose qui reste, en tout cas, dans l'héritage Geekstein. C'est ce souhait, quand même, d'approfondir à un format qui est très proche, très proche, qui est un peu plus approfondi. Heureusement, c'est ce que permettent ces ouvrages-là, mais de la presse jeux vidéo, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a un peu une continuité au travers de ces ouvrages-là.
Bah, c'est une façon de perdurer parce que les magazines de jeux vidéo, même si on va sûrement y revenir tout à l'heure parce que voilà, on va peut-être annoncer deux trois choses, mais c'est pas tout à fait le même esprit parce que déjà le ton dans mes livres, il est neutre. C'est quand même des livres à caractère informatif, je relate des faits, ouais. Et on peut pas avoir la même liberté de ton qu'on avait dans la presse des années 90.
Bien sûr.
Pas parce que je veux pas retrouver ces libertés de ton, mais parce que le support est pas adapté, en fait, tout simplement.
Oui, oui, et d'une certaine manière, alors heureusement ou pas, je ne sais pas, mais la question, c'est qu'il y a une dimension plus exhaustive et plus carrée, pour faire très simple, dans un ouvrage, qu'il y a une liberté qu'on peut un peu moins se permettre, en l'occurrence, sur votre ligne Geeksline. Justement, donc tu disais comme si c'était une évidence. Au contraire, moi je trouve que c'est plutôt positif, le fait d'avoir testé, d'avoir mis les mains dans le cambouis pour l'essentiel des ouvrages. Ce qui est intéressant, c'est que que ce soit pour les auteurs ou même des fois pour des chercheurs, c'est pas toujours l'occasion, faute de temps, faute aussi de ressources. Là justement, ça s'est organisé quand même. Comment, tu disais que tu avais une ludothèque assez conséquente, quelle était on va utiliser un gros mot justement de chercheur, ta méthodologie pour t'organiser et arriver à avoir cette dynamique d'écriture
pour
l'ouvrage GameCube, pour ne rester concentré que sur le plus récent.
Alors pour la GameCube, ça a été relativement facile de retrouver des archives parce que la GameCube, c'est arrivé vraiment au début d'Internet, en fait.
Ouais.
Donc la plupart des news, des actus, j'ai retrouvé des trucs sur des magazines. Je me souviens d'un joypad que j'avais acheté où dedans il y avait un petit livret sur le Nintendo Space World 2000 où Nintendo a tout balancé en même temps sur la GameCube et sur la Game Boy Advance. Donc c'était une source d'infos assez intéressante, surtout que ça parlait pas que de la GameCube, ça parlait aussi de l'état de la N64, de la Game Boy Color à ce moment là c'était la même ouais. Époque, c'était une période de transition, en fait. Pour le reste, après, pour les jeux, je me fie essentiellement à la base de données de GameFAQs.com, qui est très, très, très complète, exhaustive.
Il y a peut-être des sites comme Abandonware pour certaines ressources.
Oui,
qui
pour des revues, pour chercher
française.
Des informations qu'on ne trouve pas ailleurs.
Jean-Marc ?
Non, et puis on recoupe aussi beaucoup d'informations avec les acteurs de l'époque. Donc on fait beaucoup d'interviews et il faut absolument que les informations qui sont publiées soient exactes. Donc on a aussi énormément de travail de recherche, de discussion, d'interviews, comme je l'ai dit. Et c'est vraiment un travail extrêmement minutieux qui prend énormément de temps parce qu'on ne peut pas se permettre. Si on veut vraiment rendre hommage aux machines qui nous ont fait tant frissonner dans le passé, il est extrêmement important d'avoir des informations fiables.
Oui.
Donc Internet, effectivement, c'est une source d'informations, mais systématiquement, on interview aussi les acteurs, les programmeurs, les graphistes de l'époque, c'est extrêmement important.
Oui. Ah, mais de toute façon, Internet, c'est fiable à condition de recouper les sources, évidemment, parce que quand on retrouve juste une seule news, parfois avec des titres, comme on dit, les titres un peu putaclic, on se dit, il y a des fois, c'est suspect, et quand on cherche ailleurs, on ne trouve pas l'info. Donc on sait que quand on ne trouve pas ailleurs sur Internet, c'est du bidon. À l'époque, c'était déjà moins vrai. Et rien qu'en faisant des recherches comme ça. Par contre, la difficulté, c'était qu'il y avait beaucoup de news, donc de l'époque, venant de sites qui n'existent plus aujourd'hui. Donc c'était un problème. Et moi, j'ai trouvé un site super sympa, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est Wayback Machine, qui permet en fait de retrouver une page web à telle date. qui archive en fait des pages web à certaines époques. Donc j'ai pu retrouver des données comme ça en fait.
Avis à ceux que ça pourrait intéresser pour leurs ressources d'archives. Je reviens vers toi, Jean-Marc, plus sur. On parlait tout à l'heure avec humour. Mathieu nous disait qu'il avait peut-être trop écrit. Comment ça se passe globalement sur ton encadrement justement des auteurs dans ton travail?
Moi je tape, je fouette.
Oui,
je confirme.
Globalement, mon grand plaisir, c'est de taper les auteurs. Parce qu'en plus, ils adorent ça. Donc
et une fois qu'ils ont cicatrisé, donc ça se passe comment tu continues?
Je continue jusqu'à ce que j'arrive à avoir la quantifique moelle de l'auteur. De ce qu'ils peuvent donner.
Ouais, c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça, c'est la formule.
Ça devient inquiétant,
j'aime bien
messieurs.
Aussi les menoter à un radiateur, j'aime beaucoup. C'est un grand plaisir. Et après, pouvoir les fouetter, les voir en sang, ça me plaît.
Donc bientôt un numéro sur Bayonetta, c'est ça, pour rester dans la thématique.
On sait d'où je tire mon inspiration.
Et globalement, pour revenir quand même, parce que là, les auditeurs, auditrice s'inquiète un peu, même si il y a peut-être une part de vrai, on va laisser planer le mystère. Comment est-ce que tu organises l'encadrement? J'imagine, je me doute bien, en tant que responsable, que tu leur fais confiance, mais comment est-ce que ça se passe pour revenir avec eux sur
disons que l'extrême avantage que j'ai, et c'est à cause de mon parcours en tant que journaliste de la presse de jeux vidéo depuis 30 ans, c'est que j'ai vécu en direct tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand il y a eu le lancement de la Nintendo 64, par exemple, moi j'étais au Japon à ce moment-là et j'ai assisté pour de vrai aux conférences de Yamauchi qui annonçait, etc. etc. Donc ce qui me permet de pouvoir aussi contrôler ce qu'écrivent les auteurs. Et ça, c'est extrêmement important. Donc j'essaie, parfois, je ne me souviens pas de tout, mais en recoupant et en revenant à mes souvenirs, à mon vécu, on arrive à avoir une information qui est extrêmement viable et c'est un gros avantage en ce qui me concerne. J'étais là, quoi.
D'accord.
Je l'ai vécu.
Donc ça donne une vérification en plus de celle que tu fais dans ton travail d'éditeur et ton passif de rédacteur, mais dans la dynamique, les relectures, etc., dans le dur, ça se passe comment là de ce...
Dans les relectures pour le Nintendo 64 par exemple, il n'a pas pu s'empêcher dans la partie histoire de ramener des anecdotes personnelles vraiment à lui qui se souvient. Donc je relisais mon texte et d'un coup je vois JM Destroy témoigne d'ailleurs et il se cite lui-même, donc il a un petit peu rajouté sa vie, mais c'est vrai que du coup on est très complémentaires et c'est un atout.
Effectivement, ça peut aider, ça peut donner une couleur, une âme à la maison d'édition. Alors messieurs, avant de vous laisser revoguer vers les dédicaces et autres présentations de vos ouvrages qu'on espère le plus fast, je vous posais deux dernières petites questions. Est-ce que vous avez repéré peut-être par rapport aux conventions que vous pouvez faire ici et ailleurs une particularité par rapport ici à celle-ci en Savoie aujourd'hui? Il y a des trucs sympathiques qui se distinguent? Est-ce qu'il y a une ambiance?
On a une grande, grande histoire avec le savoir rétro game.
Ouais.
Jean-Marc pourra en témoigner d'ailleurs. On était parfait. Là à la troisième édition du salon.
Oui, avant le déménagement. Donc,
l'avant-déménagement. Ça se passait dans une petite salle de danse.
Ouais.
Mais Bertrand, l'organisateur, avait réussi quand même à faire venir JM Destroy, Frédéric Rénal et Alain Huglacour.
Voilà, donc respectivement créatif de jeux vidéo.
Dans une petite salle de danse, il y avait eu 350 visiteurs. C'était convivial, c'était sympa. Et trois ans plus tard, on est ici à l'Olympique d'Albertville. Ouais. C'est la folie. C'est impressionnant ce qu'il a réussi à bâtir. Et en gardant, je ne sais pas comment il arrive à faire ça, en gardant ce côté convivial. Enfin, on va se balader dans les rayons, on croise Alain, on croise Fred. Il y a Julien Chies, Carole Quintaine qui sont accessibles, avec qui on discute librement. Et c'est le genre de choses que moi j'ai retrouvé dans aucune autre convention quand même, à cette échelle.
Cette dimension pour faire familier un petit peu plus à la cool.
Vraiment, c'est ça. Okay. Je voyais par exemple hier Pascal qui faisait une conférence, Pascal Chemin, qui est une comédienne spécialisée dans le doublage, qui faisait une conférence à la cool avec elle assise par terre, son éditoire assise par terre dans un petit coin tranquillement, et c'était passionnant à suivre et ça attirait vraiment du monde, et c'est des moments comme ça. Elle m'a dit ça, c'était son meilleur moment à la convention. Donc c'est vraiment le truc en plus du savoir-être au game, la convivialité. Mais Jean-Marc, il aura peut-être aussi son mot à dire dessus.
Oui, la vie parisienne n'est pas toujours simple. Et, le fait de venir en Savoie et de rencontrer les organisateurs, enfin tous les bénévoles qui sont ici, c'est un véritable bol d'oxygène. Moi, j'ai 2 ou 3 mois avant de venir, je m'en réjouis déjà et j'attends l'orage, le jour J, avec vraiment une envie incroyable d'être présent. Et je regrette que de repartir demain. Ce soir, hélas. Je dois partir ce soir, mais c'est vraiment un bol d'oxygène dans mon année. C'est un bol d'oxygène.
Et bah le mot est lancé pour ceux qui hésiteraient à faire un déplacement aussi conséquent et qui aurait un minimum de notoriété comme la vôtre, messieurs. Jean-Marc, tu parlais d'une annonce en tout début d'interview. Est-ce que tu veux avoir un petit temps un
espace? C'est moi qui lâche le mot, Mathieu. Mais je ne sais pas si on peut en parler maintenant.
Je ne sais pas. Sinon, il y a la magie du montage.
On va attendre un petit peu, mais il y a des choses qui vont se passer chez Geeksline d'ici la fin de l'année qui seront assez étonnantes. Ouais.
Donc, c'est ce que j'allais demander. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est que ces choses qui vont se passe au mieux, voilà, pour faire ça.
Il y a la sortie de Super Nintendo qui est prévue pour la fin de l'année.
Oui, non, j'espère surtout que le travail qu'on va effectuer, qu'on effectue, plaise. Oui. C'est surtout ça.
D'accord.
J'ai tellement de... les jeux vidéo ont été ma vie et resteront à jamais une partie extrêmement importante de ma vie. Mmh. Et je respecte tellement les jeux vidéo que j'espère que le travail qu'on va tous effectuer avec une équipe vraiment extrêmement brillante, j'espère que les gens qui liront nos prochains ouvrages sentiront tout l'amour qu'on porte et toute la dévotion qu'on porte aux jeux vidéo. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer.
C'est beau.
C'est tout le malheur qu'on peut vous souhaiter. Et Mathieu, tu en feras partie donc, de ce projet?
Ah oui.
D'accord.
Oui,
et bah,
oui. Et bah, je vais même... il m'a encore coincé dans la cave à recommencer. Maintenant que j'ai fini le bouquin, il faut bien que je continue à travailler sur quelque chose. Donc
bah oui, tu as cicatrisé,
il m'a nommé responsable, même. C'est moi qui vais diriger un petit peu notre futur projet donc, qui sera annoncé incessamment sous peu. Bon, prochain, et ben, dans un mois
on suivra ça. On est à discrétion, il n'y a pas de souci. On n'est pas dans une recherche d'exclusivité absolue, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris un petit peu de temps.
Merci.
Et puis bonne fin de festival, de convention. Voilà.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Merci.
On ne quitte pas le Savoie Retro Game Festival comme ça, parce qu'en l'occurrence, vous avez déjà le timbre de voix de Stentor, de Barry White,
bonsoir.
D'un certain Florian, salut.
Salut Mehdi.
De Gourgan Cast et à plus grande échelle internationale, Gourgan Geek.
Oh oui, au moins, oui.
Voilà, qui ont le mérite pour présenter très rapidement, vous aurez les liens et tout ça, vous en faites pas, d'être très, très polyvalent, on va dire. Photos, vidéos, pas par moment d'ailleurs, vidéos tout court et podcast. Rendez-vous quand tout va bien, mensuel.
Là on a repris récemment et, ouais. et mensuel, c'est avant tout un mensuel, ouais. Sur les pop cultures.
Très bien.
Au sens très très large, on ne s'interdit rien.
Toujours, ça n'a pas bougé. Alors on va peut-être un petit peu situer, les gens se disent mais pourquoi Florian de Gourgancast? Tout simplement pour être, pas une histoire de transparent, mais pour vous donner la genèse de cette émission, c'est que on s'est retrouvé donc avec Florian en terre grenobloise et donc avant d'arriver il me dit écoute, le dimanche je serai de convention, merci beaucoup, au Savoie Retro Game Festival et voilà, viens, on y est bien et puis peut-être même que si tu veux, vu que tu avais prévu de ramener ton matos technique pour nous enregistrer, tu pourras peut-être t'en enregistrer plus si affinité. Je lui dis banco, on vend la caravane parce que c'est notre blague depuis 3 jours. Et de ce fait, nous sommes dans la salle de conférence 2. On est en train d'enregistrer présentement tout ça, de meubler. Et voilà, on va arrêter de vous tenir. On va quand même un peu parler du cœur de ce qui nous intéresse. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on découvre tous les deux.
Absolument, c'est l'avantage. Malgré mon énorme expérience, n'est-ce pas, hein, des conventions de
international,
international, non, mais c'est vrai que pour le compte de Gourgan Geek, on traîne pas mal nos guêtres les week-ends sur ouais, pas mal de salons, de conventions, de festivals en rapport avec la pop culture, avec les pop culture et la culture japonaise.
Oui.
Et ce qui est paradoxal, c'est que ce SRG, hein, on va appeler ça le SRG, savoir Retro Games, c'est l'une des plus proches de chez nous à Grenoble, puisqu'elle avait lieu jusqu'à l'année dernière à Cran-Gevrier, c'est pas très très loin d'Annecy, hein, pour que les auditeurs situent. Voilà, c'était à grosso modo 1h30 de route, et ben c'est la seule qu'on n'a jamais faite quasiment. On fait des 6 heures de route pour aller à Toulouse, on fait des 3 à 4 heures de route pour aller à Montpellier, à Marseille, voilà,
mais on aime la simplicité.
On n'était jamais venu au SRG, et du coup, comme tu dis, c'est une première fois à la fois pour toi et pour moi. Oui. En plus, on a bénéficié d'un déménagement cette année des locaux de la convention,
qui a triplé voire quadruplé l'espace.
Ils sont encore plus proches. Ils sont encore plus proches qu'avant, parce qu'ils sont à Albertville, enfin par rapport à Grenoble, hein, j'entends.
Ouais.
C'est-à-dire à 50 minutes de Grenoble. Donc ça aurait été dommage de pas venir, surtout avec ta petite visite en terre grenobloise.
Et surtout que vient de s'installer poignée de main et sociabilisation oblige. Le fondateur et responsable. Bonjour.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Et qu'on va laisser se présenter, parce qu'on était en train de parler justement du SRG. Ça tombe très bien, ça tombe à pic.
Voilà. Donc je suis le créateur de l'événement.
Oui.
Que l'événement a 6 ans. Oui.
On va donner ton nom, Bertrand.
Voilà, c'est Bertrand. Voilà, excusez-moi. Ouais, c'est Bertrand. Donc Bertrand Gérardon.
Voilà.
Donc je suis le président de Savoir Retro Game.
Oui.
Et je suis le créateur du salon.
D'accord, et on est arrivé, on était sur le double constat que, un, c'était une première pour nous deux, et que, deux, la salle avait triplé, voire quadruplé en espace.
Quadruplé, c'est ça. Exactement.
Quadruplé, c'est bien ça, parce que j'ai vu un passage d'un 1000 à 4000 m², donc comme je suis doué en maths, le calcul est vite fait. Et en l'occurrence, le premier truc qui nous a sauté aux yeux, et je pense que je vais les voir encore plus brillants et pétillants pour Florian, c'est la salle sur laquelle aura lieu les cosplays.
C'est une débauche.
Oui,
cette
opulence.
Oui, on a mis du temps à trouver la scène. On a cherché comment mettre les écrans, comment mettre les lumières, voilà.
Oui.
Et c'est vrai que ça a donné vraiment ce qu'on voulait.
Oui, c'est réussi en tout cas. Enfin, moi, j'ai encore pas vu de prestation sur scène. J'attends 14h pour
le cosplay. J'ai vu un petit peu celui d'hier parce que j'ai pas eu trop le temps.
Ouais.
Mais c'est exceptionnel.
Alors pour préciser pour les auditeurs qui n'auraient pas l'habitude peut-être de ce genre
du monde de cosplay,
c'est vrai que les civils,
comme on les appelle affectueusement.
C'est vrai que les scènes sur lesquelles il peut y avoir, je sais pas, des concerts, des Kayane, je crois par exemple, qui jouaient.
Oui, c'est ça. Sur la grande scène, il y a des animations toute la journée.
Toute la journée, il y a des animations sur scène. C'est vrai que les scènes d'une salle à l'autre ne sont pas égales en termes de surface.
Non.
Et
exactement.
Là, on est sur du 7 mètres par 7 mètres, je crois quasiment. Un truc comme
du 7 par 12.
7 par 12, même. C'est encore plus grand que ce que j'imaginais.
C'est en faire des roulades.
C'est 7
par 18, même, je crois.
Juste pour spécifier, hier, j'ai su que. Parce que c'est des copains qui l'ont fait, donc je le savais. Qu'il y avait en intro du concours cosplay hier, il y avait un gros groupe 5e élément, donc de cosplay, qui était 19.
C'est ça.
Et les photos que j'ai vues, ils n'étaient pas serrés du tout. Ils avaient de la place même à 19.
Oui, non, mais on a fait exprès. On a vraiment fait exprès d'avoir une scène grande, jolie. Et puis accessible, il y a des escaliers de chaque côté,
avec des gradins.
De chaque côté, avec des gradins, 2500 places assises.
Ça, c'est un grand luxe pour une convention aussi. Hein, parce que
et puis surtout, pas assis les uns derrière les autres, vraiment en hauteur. Tout le monde peut voir la scène.
C'est génial.
C'est non négligeable.
J'ai hâte d'y être avec mon appareil tout à l'heure. Là, je trépigne.
C'est non négligeable et plutôt un grand luxe. Donc, on parlait de déménagement. On va peut-être revenir rapidement parce que nous, on le sait et moi, j'ai fait un minimum de travail en amont sur la question. Vous n'étiez pas en terre d'Albertville de base.
Non.
Est-ce qu'on peut revenir brièvement justement sur comment est-ce que ça s'est passé
en termes de. Nous, on a démarré entre guillemets dans un garage.
Comme beaucoup de conventions et de festivals.
On a démarré, tout petit, on avait 30 visiteurs.
Ouais.
Ah oui. 30 visiteurs, c'est ça. Après, on l'a grossi assez rapidement parce qu'on est tombé au bon moment avec les bonnes personnes.
Oui.
Ça a été vraiment un coup de pouce de certains invités qui sont encore là. Oui. Voilà, comme Jean-Marc Démoli.
Oui.
Pardon, comme Jean-Marc Démoli, comme HL et tous ces gens-là, voilà, qui étaient là depuis le début, pratiquement.
Oui, ils nous en disaient de c'est plus grand bien d'ailleurs.
Juste avant, ils nous racontaient un petit peu ça.
Comme ils nous disaient hier, c'est vrai que c'est pas des gens qui seraient intéressants à inviter. Alors c'est pas comme ça, je veux le dire, mais je veux dire. Il se trouve peut-être moins intéressant que les autres invités qu'on peut avoir, mais c'est pas pour ça que je les ferai pas venir. C'est
bien,
vraiment.
Bien sûr,
d'accord. Bien sûr. Moi, nous, on est très familial. Hier, par exemple, quand on a mangé avec eux, Marcus, quand il est arrivé, disait on a l'impression que c'est un repas de Noël en famille.
Oui,
et ça, c'est vraiment
Marcus,
super bien.
Marcus lui-même qui a un setup arbre de Noël, donc c'est oui, parfait, c'est un raccord total.
C'est vraiment nous qui
avons dans le mood là.
On lui a fait la surprise.
Mais pour ceux qui seraient en mode hater au moment où ils écoutent, qu'ils ont autant de miel dans les oreilles et d'ambiance bisounours, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur l'interview précédente, il y avait ce comparo avec les, on va dire, les plus gros rouleaux compresseurs en termes de festival. Et ce qui revient très souvent, pas seulement à la SRG, c'est comme tu viens de le dire, ce côté convivial, le fait où on a un minimum le temps de se voir c'est malgré ça, les agendas très chargés des uns des autres.
C'est vraiment le but.
Ouais, et c'est vrai que oui, il y a un côté. L'idée n'est pas de dire est-ce que c'est moins bon ou meilleur qu'ailleurs, c'est simplement que c'est un autre type d'ambiance et que très souvent les gens qui sont fatigués par les rouleaux compresseurs aiment bien à se retrouver dans d'autres types de conférences. Et la SRG a l'air d'en faire partie. On peut citer une en tout cas que j'ai pu arpenter, qui est le Stunfest à Rennes. Donc voilà, c'est ce genre de lieu où on arrive à quand même à prendre le temps de très souvent, curieusement, c'est parler et suivi de très très près manger. Mais
on est en France.
Il y a pas voilà, il y a pas de surprise. Donc on parlait effectivement de déménagement, alors que la sono s'agite et nous rajoute de l'ambiance, c'est génial. Ensuite donc après ces 30 personnes, comment progressivement ça s'est passé?
Après on a commencé à monter, on a fait 30 personnes, on a fait 150, on a fait 300. Et à un moment donné, on a changé de lieu.
Oui.
On était dans une salle de danse à un moment donné, au départ.
Dont nous parlait encore une fois Jean-Marc.
Dans la salle Swing Follies, c'est une salle de danse.
Ouais.
Qui était dans quel coin du coup?
Qui était à Annecy.
C'était
à Cran-Gevrier, exactement.
À Cran-Gevrier, voilà. Ouais, d'accord.
Et donc là, on avait fait 300 personnes.
Mmh.
Et après, on est passé à la salle René Honoré, qui faisait 1000 mètres.
Ouais.
Et là, on a fait 1005. Donc
c'est la progression a été constante
tout le temps,
complètement exponentielle. Quoi,
c'est ça, vraiment, tout le temps. L'année d'après, on a fait 3005, donc l'année dernière.
D'accord.
Et là, d'après les derniers chiffres, je pense que ce soir, on devrait atteindre entre 7 et 8 000.
D'accord.
Wow, ah oui.
Bah oui, tant qu'à faire.
Félicitations.
Merci.
Franchement, dans un lieu pareil en plus,
c'est ça.
C'était un pari quand même. Hein,
donc c'était un pari. C'était long, c'était difficile.
J'imagine bien, ouais.
Mais
c'est bizarre, parce que pour avoir eu plein en interview, moi, dans le Gourgan Cast, des organisateurs de conventions, puisque c'est un intérêt principal pour moi, ils nous disent tous la même chose. C'est long, c'est difficile, on est complètement maso, on ne sait pas pourquoi on fait ça. Mais au final, la satisfaction,
le plaisir, ouais, tout à fait.
Est tellement énorme d'avoir les invités. Enfin bon, comme tu le disais, il y a quand même des invités de très haute qualité. Hein.
Ouais.
Enfin, JM Destroy à échelle, moi, c'est toute mon adolescence des années
90. Ah, mais nous, c'est les comment dire, ils étaient là au début du jeu vidéo.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, ils sont toujours là et ils nous donnent des histoires de. Ils nous racontent des histoires de fous.
Ouais, mais
c'est vraiment exceptionnel, quoi.
De voir vieux briscards du jeu vidéo.
Même Marcus.
Ouais, qui ça fait un moment qu'il y est.
Mais il y a longtemps. Maintenant, il y a Kayane qui commence à arriver.
Ouais.
Fred Zolfanelli.
Alors, c'est ce que j'allais rajouter justement. Bon, c'est le cas dans d'autres festivals et d'autres conventions. Mais là, il y a vraiment, je trouve, un équilibre, justement. Je vais utiliser un gros mot encore une fois, transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a un truc vraiment. Il y a des passeurs, comme typiquement Kayane, pour resituer, parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure. Qui est une joueuse professionnelle, entre autres jeux de combat, mais pas que, et qui a aussi un discours qu'elle essaye, on va dire, le plus bienveillant autour des pratiques, etc. On a des personnes, on va dire, plus divertissement, ce qui n'enlève rien à la qualité des contenus, hein, parce que les gens croient parfois que c'est un gros mot, comme le joueur du grenier et son acolyte. Et en l'occurrence, voilà, on a aussi des grandes gloires, enfin des anciens de. Et alors je vais revenir, on parlait des difficultés justement à organiser toute cette petite chose. Il y a eu aussi eu un passage à un moment avec du financement participatif pour aider.
On a essayé une fois et on réussira pas parce que.
D'accord.
C'est compliqué à mettre en place, il faut le suivre tout le temps.
Oui.
Et on n'avait pas du tout l'équipe adéquate pour ça.
Oui.
D'accord.
Et donc on a arrêté et je pense qu'on repassera pas là-dessus.
D'accord.
D'accord. c'est trop compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment compliqué. Il faut tout le temps être en permanence sur le financement. Sauf qu'on on préfère être sur l'organisation de la
convention. Oui, bien sûr. Ouais,
c'est l'équilibre. C'est toujours le comment on arrive à équilibrer tout ça. Mais c'est comme ce que disait Florian un peu plus tôt. C'est un discours que je retrouve très souvent dès qu'il est question de financement participatif sur des festivals et des conventions. Voilà. Là, nous y voici avec la sono pour nous ambiancer. Bah, comment te sens-tu? On va la faire un peu mode Laurent Boyer, fréquence star pour les plus jeunes, je sais pas trop qui vous pouvez penser, mais on va dire un animateur qui essaye de mettre les gens à l'aise. Comment te sens-tu là à l'instant T suite à l'organisation
là? Alors on a été beaucoup à l'écoute des gens hier. Il y a eu pas mal de petits couacs, les gens, on l'a vu sur Facebook, ont indiqué des choses. D'accord. Et aujourd'hui ça a été réparé.
Ok.
Voilà, on a vraiment fait tout le
soucieux des retours
hier soir. Voilà, on a regardé les affichages, les choses, les indications. Voilà, il y avait des petits couacs. Bon, ça arrive. Hein,
bien sûr.
Voilà. Mais je ne connais pas une convention que ça n'arrive pas.
Hein.
Oui. Voilà, je veux vraiment que les gens prennent en considération que hier, on a regardé tous les commentaires Facebook, tu regardais ce que les gens disaient. Et on l'a modifié. On s'est dit, ce commentaire-là revient souvent. Ouais. Hop, allez, on va faire le nécessaire.
Ah ouais, donc sur le pont jusqu'au bout de la nuit.
C'est
quoi,
ça, c'est, exactement. Hier à 3h45, on était encore en train de discuter de comment on allait faire aujourd'hui. Quoi.
Ouais. Je te trouve vaillant quand même. Hein,
c'est l'heure où ça commence un peu à piquer. Alors, on a parlé réactivité, on a parlé historique de la SRG. On va parler d'un truc dont on parle pas forcément souvent dans les podcasts, en tout cas qui traitent ce genre d'événement-là, c'est justement les bénévoles, enfin toutes les personnes qui gravitent autour et qui font que la machine tourne au-delà des juste le après staff, les organisateurs.
Le staff. Béni soit-il, les staff, en toutes circonstances.
Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'ils sont recrutés? Est-ce qu'il y a des milieux plus associatifs qui gravitent autour justement des régions Savoie, etc., qui vous font amener des gens? Est-ce que vous faites des appels?
Sur notre site internet, on avait ouvert un formulaire.
D'accord.
Et on demandait aux gens de s'inscrire.
Oui.
Et puis après, on les appelait, on leur demandait aussi un petit peu leur motivation pour voir s'ils nous connaissaient, quelques petites infos. Et on était 70 bénévoles aujourd'hui.
Ah, vous êtes 70.
C'est ça.
C'est une belle équipe quand même. Hein. Enfin, en même temps, si ça finit à 7-8 000 personnes, il faut bien ça. Parce que on les voit quand même bien courir. Nous, on est là depuis 10 heures. On voit bien le staff, enfin, comme dans toute convention de toute façon. Mais alors, courir dans tous les
gens. Qui fonctionne.
Par contre, très agréable, hein, si je puis me permettre. Voilà, je fais une petite incartade. Le staff.
Merci.
Tous les gens avec qui on a eu affaire.
Dans certains dossiers qu'on a reçus, des gens ont postulé parce qu'ils avaient vu l'équipe. Ils trouvaient l'équipe sympa.
Ah, d'accord.
Et qu'il y avait une très bonne ambiance dans le groupe.
D'accord.
Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient postulé. C'est rigolo.
On considère vraiment le
SRG, les bénévoles, on essaye comme une famille.
Bien sûr, on pense
que si tous ensemble on s'entend bien et que ça marche bien, la convention marchera avec. C'est vraiment l'idée.
Après, tu mentionnais aussi un détail, parce que des gens vont dire c'est bien beau de dire qu'il y a un fonctionnement familial, etc., mais il y a quand même une attention. Le simple fait de dire que quand même vous leur demandez pourquoi ils sont arrivés vers vous, pourquoi est-ce qu'ils postulent, etc., un entretien, on n'est pas non plus dans
un entretien d'embauche, hein,
on est d'accord, mais quand même le simple fait d'avoir cette grille-là et pas de dire on va avoir des bras en plus,
non.
C'est bête à dire, mais en tout cas, moi pour croiser les informations,
je vais mettre les pieds dans le plat, ce n'est pas du tout anodin, parce qu'il y en a beaucoup des très très grosses qui ne se revendiquent à aucun moment d'être familiales justement et qui traitent vraiment les bénévoles et les staffs c'est juste des bras gratuits en plus.
Oui.
J'en fais suffisamment pour le savoir et m'en être rendu compte et pour avoir discuté avec nombre de staff. J'en ai déjà parlé dans les podcasts. On est d'une convention à l'autre, les ambiances avec les staffs. Et ça se voit avec le rapport qu'il y a au public, entre le staff et le rapport au public après qu'il y a derrière.
C'est ça.
Certaines très très grosses conventions ont très mauvaise presse à cause de ça. Donc c'est important.
Mais après, plus on va grossir, après je sais pas quelle taille on aura à un moment donné.
Bien sûr.
Chaque chose en son temps,
plus ça sera compliqué.
Évidemment.
Mais on veut garder cette optique.
Cela dit, ce n'est pas impossible. Je cite évidemment. Là, c'est vrai que dans mon discours, ça peut paraître un peu vindicatif. Je ne mets pas toutes les grosses conventions dans le même sac, très loin de là.
Bien sûr.
Je me passerai de tout nom. Mais le fait est qu'il y a des très grosses conventions où tout se passe très bien, parce que même si c'est effectivement commercial, parce que ça reste le nerf de la guerre, l'argent, de toute façon, à un moment, quand on veut organiser ça, il y en a qui ont gardé cette âme malgré tout.
associative à la base, de grande famille, etc.
Après, aux grosses conventions, on est une association encore.
Oui, aussi.
Même si on est gros, c'est pas une société.
Ça reste une association. Voilà. Donc,
on a encore l'esprit associatif.
Oui.
Alors, l'esprit familial.
Ouais, bien sûr.
C'est parfait. J'ai les deux hashtags mots-clés qu'il me fallait pour ma transition. On me mâche le travail. Donc, justement, le bureau de l'association, donc, qui est le Savoir Retro Games, qui est une asso loi 1901, et qui est majoritairement, mais peut-être que tu vas nous décliner un petit peu plus les membres qui gravitent autour, à la fois donc, culture associative et familiale, parce que quand j'ai pu regarder donc, sur le j'espère que je ne vais pas écorcher donc le nom de la ville qui est
Mantonnex,
voilà, bah, ça y est, c'est fait, c'est écorché, Mantonnex sous Clermont, voilà. Donc je vois une Girardon Sandrine, donc qui est trésorière, effectivement, entre autres, et secrétaire, pardon, qui est
qui est ma femme.
Ta compagne, voilà, donc ta femme, ça c'est fait, et justement, voilà, dans son fonctionnement là, comment vous en êtes arrivé là, tous les deux, j'ai envie de dire, bêtement,
au départ, elle n'était pas spécialement dans le truc.
Oui.
C'est à force de grossir qu'elle est venue commencer à s'impliquer plus
grossir,
en détail.
Tu parles de l'association.
Oui,
hein,
l'association.
C'est histoire de détendre un peu
l'atmosphère. C'est moi qui fais ce genre de blague.
À force d'avoir beaucoup de boulot supplémentaire, oui. Elle a commencé à s'impliquer un petit peu plus.
D'accord.
Et à venir dans l'association.
Oui.
D'essayer, là, elle s'occupe des invités à midi pour qu'ils aient bien tout ce qu'il faut.
Oui.
Donc ça, je trouve ça intéressant.
Un invité bien nourri est un invité content.
nous, c'est vraiment l'idée, c'est qu'ils chantent comme chez eux, quoi.
Ouais,
ils arrivent chez nous et ils disent, ah, tiens, putain, j'ai l'impression d'être à la maison.
Oui.
Et c'est un peu le cas, parce que tout le monde, on se croit, on se fait la bise. Voilà, c'est vraiment...
Sûr, hein.
On veut ça, on veut garder ça.
Mais je crois qu'au-delà de la familiarité, sans forcément cultiver une illusion, tout le monde se connaît et s'aime bien, c'est vrai que simplement, et j'y étais à la blague tout à l'heure, mais simplement le fait d'avoir un temps marqué d'accueil et de repas, voire quand on a de la chance et que le staff n'est pas trop complètement cramé, de deux repas dans la journée, c'est vraiment moi c'est le signe, on va croire que j'ai vraiment un focus là-dessus, mais c'est le signe d'événements en général qui sont réussis très souvent en tout cas, et tu disais en plaisantant même pas Florian tout à l'heure, on est en France monsieur, c'est vrai que ça est concours.
Non seulement on est en France, mais on est en Savoie.
Oui.
Alors si en Savoie on sait pas accueillir les gens pour manger, c'est qu'on n'y met pas du sien,
hein, on va le faire.
Et par exemple, hier, c'était raclette.
Ah ben,
bah oui.
Comment passer outre ?
Allons, messieurs, dames, restons sérieux un petit peu. Bon, on est en terre savoyarde ou pas ?
Respectons-nous, diraient les plus jeunes. Très bien. Ça va être l'instant, déjà pour te libérer et avant de te remercier, carte blanche, si tu voulais parler de la SRG, d'une anecdote, de ce que tu veux. C'est l'instant où tu peux t'en saisir.
En fait, je suis vraiment heureux que tous ces invités aient répondu présents, déjà.
Ouais.
C'était pas gagné d'avance et c'était très dur de pouvoir réunir une pléthore d'invités comme ça.
Mm.
Et voilà, ils ont tous dit oui, ils sont tous contents. Et je pense qu'à mon avis, et surtout, on aimerait qu'ils reviennent l'année prochaine.
Et voilà, on croise les doigts pour vous et avec un peu de chance pour nous, peut-être en étant présents nous-mêmes ici l'année prochaine. Merci pour ton temps, Bertrand.
Oui, merci beaucoup, Bertrand.
Et bon courage.
Et très bon courage pour cet après-midi.
Voilà.
La moitié du staff veut être adoptée par cette famille, je précise quand même. Il va y avoir beaucoup d'adoptions, ça va être cool. Très grande famille cosplay.
On aura fait un petit tour, quelques invités et surtout le responsable, donc Bertrand, qu'on a eu au micro avec Florian. On va quand même retourner sur le SRG en tant que tel pour profiter, parce que c'est toujours, on en blaguait en off, mais c'est toujours ce moment où quand on parle événement, dès qu'on commence à le couvrir en semi-pro ou professionnel, on a plus le temps on en profite, mais sous un autre angle.
On a plus le même œil, voilà. On y vient pas avec les mêmes intentions et ni le même œil une fois sur place.
Et la même fatigue surtout, mais ça c'est un autre détail,
parce que
le matériel, tout ça. Très bien, je sais pas tout de ce que tu as pu observer ou ce que tu as pu entendre là en étant avec moi sur l'interview de Bertrand,
il y a quelque chose, tu disais tout à l'heure, voilà, comme même si tu n'aimes pas le terme l'intergénération qu'il peut y avoir dans cette
dans cet espace, c'est vrai que bon, moi j'ai coutume de dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans toutes les conventions, c'est le fait que plus on avance, ça se démocratise vraiment et ouais. On voit des grands-parents qui viennent avec les petits-enfants,
oui,
on voit des familles de trentenaires, quarantenaires qui ont grandi dans les années 80 et qui viennent faire découvrir un certain univers à leurs propres enfants, etc.
Ouais.
Et alors ça peut paraître très, très bêta comme ça, mais je trouve ça très encourageant. Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est, enfin, voilà, il y a des gens. Quand on dit de 7 à 77 ans, dans ces lieux, c'est exactement. Et à la SRG, là, en particulier, c'est vrai qu'on a eu, une petite, une grosse heure et demie, même là, pour tourner un petit peu dans la convention. Il y a ça qui est très représenté. Cette intergénération, vraiment. Il y a de tous les âges. Il y a même au niveau des invités. Comme le disait tout à l'heure, on en a eu deux d'entre eux, hein, de toute façon, oui. Les invités de la convention. Oui. Mais comme le disait Bertrand, voilà, il y a Kayane et Fred of the Dead des Noobs, qui est pour une, oui. pour, sans doute pour des spectateurs un petit peu plus jeunes, en tout cas, qui sont de la génération fin 90, années 2000, hein, à la louche, hein, je ne veux pas du tout stigmatiser. Et on a des JM Destroy et des AHL, des Marcus, qui sont pour des gens peut-être, bon, même si Marcus, il est peut-être un peu plus à la croisée des chemins. Voilà, à HL, JM Destroy, toi et moi, on est comme des gosses de voir des gens comme ça. Je ne suis pas sûr que ça parle forcément aux plus jeunes générations.
Non, bien
mais
sûr.
Mais c'est toute la richesse de ce genre d'événement, c'est qu'on croise tout ce genre d'invités, justement, qui sont extrêmement accessibles, hein, la preuve.
Oui.
Et voilà, bah, c'est très représentatif de ce qu'on peut croiser dans ce salon. Ouais. Après, pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de parler de cosplay, évidemment.
Mais bien sûr, mais c'est aussi pour ça que
c'est quand même mon nerf de la guerre dans les conventions.
Ouais.
De ce que j'en ai vu pour l'instant, le concours qui va avoir lieu cet après-midi risque de bien donner. On a vu de très, très jolis costumes. Hein. Enfin, même toi qui n'es pas forcément très, très.
J'ai
très
moins l'œil, on va dire. Moins ça, l'œil.
En tout cas, voilà, donc, on se faisait la réflexion. Que il y avait quand même de très très jolis costumes, il y avait
de
jolies
niveau,
choses, vraiment de très très bon niveau. Là, on a eu la chance de passer un peu dans les loges cosplayer tout à l'heure, j'en ai vu 3-4. On va passer un bon moment, je pense, là, en prestation cosplay cet après-midi.
Est-ce qu'on n'a peut-être pas été suffisamment clair, mais c'est que toi, au-delà d'apprécier, tu prends des photos aussi, alors
oui,
que le roi Lion est en train de.
Tout à fait.
Ah non, c'était un Kamehameha.
Voilà,
pardon,
quelqu'un m'a fait un Kamehameha quelque part, je ne sais pas.
On applaudit bien fort.
On applaudit Kamehameha. Oui, donc c'est vrai que. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais parce que bon, c'est pas le sujet principal, mais c'est vrai que à la base quand même Gourgand Geek s'est créé autour de la vidéo et de la photo,
oui.
Et notamment la photographie de cosplay. Donc les cosplays, on les trouve en convention. C'est pour ça qu'on a commencé à les fréquenter relativement régulièrement.
Pas encore en pleine nature, contrairement au Japon. Je disais un peu moins en pleine nature,
ouais, non,
contrairement
c'est
au Japon.
C'est moins en pleine nature. Quoique maintenant je les prends en photo en pleine nature maintenant,
oui.
Justement.
Et c'est parce que
j'organise des séances photographiques.
Parce qu'il y a le setup, contrairement par exemple au Japon, quasiment tous les week-ends, aux environs de Shibuya et compagnie, certains quartiers,
bien
on
sûr.
A des cosplayers en mode.
C'est vrai que c'est encore, voilà. On n'en est encore pas là en France.
Encore,
hein,
non,
ça se démocratise, mais on est loin d'en être là encore.
N'est-ce pas?
Et du coup, oui, bah, c'est vrai que moi, je vois ça avec l'œil du photographe.
Hein, oui.
Pour beaucoup, parce que bah, voilà, le cosplay, c'est extrêmement esthétique. Quand en plus, le play du cosplay, donc je rappelle cosplay, costume, playing, il y a à la fois la partie costume fabriqué main, mais aussi la partie jeu de rôle, hein, théâtral du cosplay, qui est de vraiment rentrer dans la peau de son personnage. Ça donne lieu à des prestations pour des concours, etc. Et c'est un régal de couvrir ça en vidéo, en photo. Il y a de quoi travailler à la fois sur les costumes, sur les corps, sur les chevelures, sur les mouvements, il y a plein de choses à faire. Là, moi, je vais me régaler cet après-midi. Je ne vais pas faire de photos à proprement parler dans les allées des conventions parce que j'ai pas de studio sur la convention.
Ouais.
J'aime un peu moins faire ça, des photos dans les allées des conventions. Par contre, je vais me régaler sur scène, hein, faire de la photo vraiment en mouvement des prestats et des prestations que vont livrer les cosplayers. Je vais passer un très bon moment, je le sens là, je le sens bien.
Avant de dire justement, on pourra retrouver le résultat de ce loot que tu vas faire. juste t'emboîter le pas sur ce que tu viens de dire. Je viens seulement de me faire la remarque, même si j'avais déjà dû la remarquer auparavant. On s'est arrêté un moment en discutant avec certaines de tes connaissances sur un stand, enfin un stand cosplay, c'est-à-dire donc qui spécialise vraiment sur le maquillage, les lentilles, éventuellement les coiffures, etc., certains matériels. Et ça aussi, moi je trouve que c'est très intéressant parce que il y a toujours ce problème qu'on retrouve dans d'autres pays, mais particulièrement en France, d'opposition entre la pop culture, comme tu le dis souvent en plaisantant, en mode troll, quand on va dire basse culture ou sous culture, et je justement, là, je trouve qu'il y a un truc un peu à la croisée quand tu disais des 7 à 77 ans, parce que même il y a, on va dire, peut-être deux grands extrêmes de cosplay qui vont être ceux qui vont faire au maximum, au bout des doigts, leur costume de bout en bout, à la main en général, ouais. Et ceux qui vont avoir des costumes un peu hybrides, c'est-à-dire qui vont à la fois faire des trucs dans leurs limites et acheter. Généralement, c'est les plus jeunes, souvent, pour des raisons de financières ou autres, pas encore de maîtrise de ce domaine-là. Et là, on voit de plus en plus des plus jeunes qui passent avec parents, grands-parents. Et il y a ce croisement, je pense, où ça commence un peu à passer sur le fait qu'il y a des trucs qu'on peut accrocher. On se dit, tiens, finalement, on les voit s'agiter devant ces personnages avec des costumes en mode pyjama fluo, genre Naruto et compagnie. Mais il y a un vrai truc qui n'est pas si éloigné que ça d'une pièce de théâtre ou d'un backstage, d'un spectacle ou quoi que ce soit. Et je pense, voilà, ça passe subtilement, même si ça ne veut pas dire que les parents ou les grands-parents vont derrière se mater l'intégrale de One Piece ou de Sailor Moon, mais en tout cas il y a voilà, ça se dit, ah oui, ok, bon, c'est pas si ils sont pas si illuminés que ça,
sont des gens normaux,
oui, étonnant. Non,
si tu me permets de cramer un petit coupon promo, du coup,
oui,
je vais renvoyer les auditeurs vers le Gorancast, le quatrième numéro du Gorancast,
ouais,
que nous avions entièrement dédié justement au cosplay, où effectivement, avec Chris, on connaît très très bien le cosplay, mais on s'était dit, ce serait super cool de faire un podcast qui dure pour le coup 3 heures, hein, c'est assez long, donc à écouter en plusieurs fois si vous n'avez pas forcément le temps, ça passe très bien.
C'est comme la bonne charcute,
on a invité plein de copains cosplayers et on a fait un gros podcast de 3 heures pour resituer ce qu'est le cosplay, parce que nous, c'est vrai qu'on parle de cosplay régulièrement, on sait de quoi on parle, donc des fois il faut pas hésiter, d'ailleurs on dit à nos amis, il faut pas hésiter à nous recadrer si vous avez besoin d'explications, d'éclairage. Non, mais vraiment, pour le vrai, c'est comme quand on est expert en n'importe quoi, on a tendance à en parler.
Ouais.
Il faut recadrez-nous, et on s'est dit, on va faire un podcast entier là-dessus, justement. Donc j'encourage les auditeurs à aller l'écouter, c'est le quatrième numéro du Gorancast, c'est celui de novembre 2016, si je dis pas de bêtises, qui est trouvable évidemment gratuitement sur le net, et qui revient, si vous êtes curieux en tout cas du cosplay, ça revient de façon assez complète sur ce qu'est le cosplay, son historique, d'où ça vient, comment ça s'est développé et quels sont les ressentis justement des cosplayers par rapport à leur famille, à leurs amis, avec le public, avec les concours cosplay, on couvre un spectre assez large du sujet, et je pense que c'est pas mal intéressant, sans vouloir me lancer le fleur, et que ça peut éclairer des gens qui seraient un petit peu curieux, la curiosité, toujours, encore et toujours.
Voilà. Très bien, un tuto de qualité, et en général c'est pas pour survendre en mode c'est des amis qui participent, mais il y a l'humour est au rendez-vous, vous serez pas en mode psychorigide dans la team du groupe d'Encast.
Ce n'est pas notre habitude.
Il y en a d'autres qui le font plus sérieusement, mais très bien. Florian, un immense merci du coup pour animer ça et puis avoir ajouté tes petites pastilles.
C'est gentil, mais c'est à moi de te remercier, parce que c'est toi qui as ramené tout le matériel, qui a fait le déplacement depuis Paris pour venir nous voir et nous accompagner.
Ça se mentionne pas. Je m'attendais pas à enregistrer plus, donc sinon on va pas en finir de remercier miroir magique.
Arrêtons là.
Merci pour ceux et celles qui nous auront écoutés jusqu'au bout en format pastis. C'est aussi la volonté de cette émission là de pouvoir être prise par différentes portions congrues. On vous dit à très bientôt, puis n'hésitez pas à nous faire nos retours comme d'habitude sur @despodcast, DE2EZ podcast au pluriel, c'est toujours compliqué, mais vous aurez un message promo à la fin, et puis le Gourgancast qu'on peut retrouver
sur gourganggeek.com, sur notre site où il n'y a plus que les podcasts d'ailleurs, et sinon iTunes, c'est sur Bad Geek, sur Pod Radio, gourganggeek.com, et ça va très bien, tout est trouvable, écoutable, téléchargeable gratuitement.
Ça a l'avantage d'avoir un nom assez atypique et retrouvable d'autant plus facilement. Voilà, on vous dit à plus tard, ciao,
des bisous.
Vous pouvez retrouver le reste des émissions du Death Podcast Universe sur SoundCloud et iTunes. Toute l'équipe de Death Podcast vous invite à nous y laisser vos commentaires et nous mettre 5 étoiles pour plus de visibilité si le cœur vous en dit. Les partages et le bon vieux bouche à oreille sont aussi les bienvenus.
Welcome.
Vous pouvez aussi y retrouver des formats vidéo sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez venir échanger avec nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, en tapant DEZ Podcast, tout attaché, DEEZ Podcast, en n'oubliant pas le S à la fin. Vous y trouverez toutes les infos relatives aux émissions dans des messages épinglés avec liens et autres flux RSS. That's what I expected from you. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Can't wait.